Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, on commence une nouvelle série sur le podcast, une série qui va durer 6 épisodes et qui va parler de la psychologie de la persuasion. Pour commencer avec cet épisode, imaginons que je veuille vous convaincre de suivre le podcast Marketing Mania. Quel est l'argument le plus convaincant que je puisse vous donner? Évidemment, la meilleure façon est de vous faire écouter un épisode en entier pour vous faire réaliser de façon évidente la qualité incroyable de ce podcast. Mais supposons que je n'avais pas le temps ou que je n'avais pas les moyens de vous faire écouter un épisode en entier. Comment vous convaincre en seulement 10 secondes que ce podcast est de qualité? Ce qu'on verra dans cet épisode, c'est que la meilleure façon de vous en convaincre est probablement d'utiliser le mécanisme de la preuve sociale. C'est de vous dire, voilà ce que d'autres personnes ont pensé de ce podcast. Et d'ailleurs, si vous êtes un auditeur fidèle du podcast, vous aurez remarqué qu'à la fin de chaque épisode, et celui-ci ne sera pas une exception, je vous demande d'aller me laisser une évaluation sur iTunes. La raison, c'est la preuve sociale. Je sais que écouter un épisode va vous prendre entre 15 minutes, 20 minutes, parfois même une heure sur certains de mes épisodes les plus longs. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps d'écouter tous les podcasts au monde. Et donc, mon meilleur argument, c'est de vous montrer que d'autres personnes ont pris ces 20 minutes, ces 35 minutes, cette heure à écouter ce podcast et qu'ils en ont tiré des bénéfices. Ce mécanisme de la preuve sociale apparaît encore et encore dans la plupart des canaux marketing. Par exemple, sur Amazon.fr, vous pouvez voir que Amazon met en avant les évaluations. Non seulement la note moyenne de 1 à 5, mais aussi, et ça c'est important, le nombre d'évaluations. Parce qu'un produit avec 1200 évaluations, c'est très différent d'un produit qui a la même note, mais reçoit uniquement 12 évaluations. Vous supposerez que le produit qui a 1200 évaluations est populaire, et que s'il est populaire, c'est qu'il y a une bonne raison. On reviendra là-dessus plus tard. Un autre exemple, c'est les films. Un argument de vente pour un film sera souvent qu'il a été vu par des millions de spectateurs. En soi, on sait rationnellement que le fait qu'un film soit populaire n'est pas un gage de qualité, mais sur un point de vue inconscient, la preuve sociale fait son effet. Un autre exemple qui va peut-être vous surprendre, c'est les rires enregistrés. Certaines sitcoms, en particulier les sitcoms américaines, ont tendance à utiliser une piste de rires enregistrés qui viennent avec leur programme. Pour la plupart d'entre nous, ces rires enregistrés apparaissent un petit peu carton, un petit peu bidon, ils semblent un peu forcés. Mais pourtant, la science a montré que les rires enregistrés étaient efficaces. C'est-à-dire que si vous passez le même extrait de comédie à deux publics, le premier public, vous leur passez l'extrait sans rire enregistré, deuxième public, vous leur passez l'extrait avec les rires enregistrés, vous pourrez mesurer que le second public rigole plus pendant l'extrait et va a posteriori évaluer l'extrait comme étant plus drôle. Et la différence, c'était que dans un cas, ils ont entendu d'autres personnes rire avec eux. Il y a donc quelque chose de très profond qui se passe ici. Et dans cet épisode, on va ensemble plonger dans ce mécanisme de la preuve sociale. Pourquoi il fonctionne? Comment il fonctionne? Pourquoi la preuve sociale n'est pas un mécanisme irrationnel, mais un mécanisme qui fait sens dans le contexte de l'évolution humaine? Et surtout, on va voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce mécanisme de la preuve sociale dans votre marketing pour augmenter vos taux de conversion et pour faire plus de ventes sur votre site. Alors avant de commencer avec tout ça, je veux préciser que cet épisode est le premier d'une série de 6 épisodes qui vont être les 6 prochains épisodes du podcast Marketing Mania. Cette série sera basée sur le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Ce bouquin est un classique. Il a été publié en 1984 et encore aujourd'hui, c'est un livre de référence pour de très nombreux marketeurs. Un des éléments intéressants du livre Influence, c'est que ce n'est pas à l'origine un livre de marketing, mais bien un livre de psychologie. Cialdini est quelqu'un qui est un psychologue, qui est un chercheur et qui est intéressé par les mécanismes fondamentaux de l'esprit humain. C'est une des choses qui en fait un classique incontournable pour tout marketeur. Parce que Influence n'est pas un livre sur les techniques marketing, mais sur les principes psychologiques qui fonctionnaient en 1984, qui fonctionnaient même 100 ans avant ça et qui fonctionneront encore dans 100 ans ou dans 200 ans parce que ça fonctionne sur ces 6 principes fondamentaux de la psychologie humaine qui sont la réciprocité, l'engagement, l'autorité, l'appréciation, la rareté et la preuve sociale. Vous l'aurez compris, il y aura un épisode sur chacun de ces 6 principes et on commence aujourd'hui avec le principe de la preuve sociale. Si vous avez lu le livre Influence, cette série sera une occasion de le revisiter du point de vue du marketing Internet, voir comment ces principes s'appliquent à notre époque moderne en 2015. Si vous n'avez pas encore lu Influence, je vous le conseille très fortement, même si vous écoutez ces épisodes, je n'aurai bien évidemment pas le temps de couvrir tout ce qui est couvert dans le livre. Ces 6 épisodes seront pour vous une excellente introduction à ces principes et vous allez voir une nouvelle fenêtre qui explique l'ensemble des actions marketing que vous pouvez déjà mettre en place et qui vous donneront une bonne façon de réfléchir à vos nouvelles techniques et à votre nouvelle stratégie que vous pourrez utiliser dans le futur. Alors revenons à notre mécanisme de la preuve sociale. La preuve sociale est un principe psychologique qui dit que si beaucoup de gens font quelque chose, c'est que cette chose doit être une bonne décision. En d'autres sens, on va supposer que si une masse de personnes prennent une décision, c'est qu'ils ont une bonne raison. Même si fondamentalement, nous ne savons pas quelle est cette raison. Imaginons un exemple très simple. Vous êtes un touriste dans une ville inconnue et vous voulez aller dîner au restaurant. Vous arrivez sur la rue principale et vous avez le choix entre 2 restaurants. À votre gauche, vous avez un restaurant qui est animé. Il y a pas mal de gens dans le restaurant, il y a de l'activité, etc. À votre droite, vous avez un autre restaurant qui ressemble en tout point au premier, à un détail près. Il n'y a absolument personne dans ce restaurant. Il y a un serveur qui est planté devant le restaurant et qui vous regarde avec des yeux désespérés en disant « Mon Dieu, on n'a aucun client, on a besoin de clients ». En soi, vous n'avez pas vraiment d'informations qui vous permet de savoir si un restaurant est meilleur que l'autre. Mais la plupart d'entre nous vont avoir tendance à choisir le restaurant qui a déjà des clients plutôt que le restaurant qui est absolument désert. L'idée ici, évidemment, c'est qu'on suppose que si les gens choisissent majoritairement un restaurant plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a une raison. Potentiellement, le restaurant populaire sert une meilleure nourriture, à des prix plus abordables, à un service plus sympa. Peut-être que le restaurant qui est vide a eu un scandale récemment où plusieurs clients ont été empoisonnés par de la viande qui avait été mal réfrigérée. Peu importe. L'important ici, c'est de savoir que vous n'avez pas besoin de connaître la raison. Vous allez suivre instinctivement le groupe. Et la raison pour laquelle cet exemple est intéressant, c'est parce que ça vous montre d'emblée que la preuve sociale n'est pas une arnaque. La preuve sociale n'est pas un mécanisme purement irrationnel. La preuve sociale est utile et elle vous permet de prendre de meilleures décisions. La preuve sociale vous permet de prendre des décisions quand vous n'avez pas toutes les informations en main. Et dans la plupart des cas, cette décision sera la bonne. Si on va un peu plus profond, on peut se demander pourquoi est-ce que la preuve sociale fonctionne. Et fondamentalement, comme beaucoup d'éléments de notre psychologie, c'est un mécanisme qui a été mis en place il y a très longtemps. C'est un mécanisme qui a permis à l'être humain de survivre dans des conditions difficiles où il n'avait pas toutes les informations en main. Si vous revenez dans la jungle, imaginez-vous vos ancêtres il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Si votre ancêtre voit un groupe de personnes prendre une certaine action, il y a pas mal de choses à en déduire. Par exemple, si vous êtes un individu dans la jungle et que vous voyez un groupe de personnes s'enfuir à toute vitesse dans une direction, même si vous ne savez pas pourquoi elles s'enfuient, vous avez probablement intérêt à vous enfuir avec eux. Probablement quelque chose qui les pourchasse, un danger qui est présent. Vous avez intérêt à suivre aveuglément le mouvement de foule plutôt qu'attendre et de voir la cause par vous-même. Parce que si vous attendez de voir le tigre ou le rhinocéros ou le troupeau d'éléphants ou l'incendie qui fait fuir ces gens, il est probablement trop tard. Un autre aspect qui permet à la preuve sociale de promouvoir la survie humaine, c'est la question de la coordination de groupe. Si vous réfléchissez, l'être humain est physiquement inférieur à beaucoup d'autres animaux. En termes de prédateurs, on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents, on n'est pas particulièrement rapide, on s'essouffle rapidement, etc. En termes de survie, on n'est pas particulièrement bien adapté aux éléments, on n'a pas de fourrure, etc. Le seul avantage que l'être humain a par rapport à ses concurrents d'un point de vue de l'évolution, c'est que l'être humain est capable de coordonner des groupes. C'est absolument le seul avantage qui a permis à l'être humain de survivre et d'arriver là où il en était. Il y a beaucoup d'aspects à cette coordination de groupe, le langage, la capacité à raconter des histoires, etc. Mais l'élément qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr la preuve sociale. La preuve sociale permet à un groupe de maintenir sa cohésion, même sur des choses purement arbitraires. Par exemple, si un groupe humain va chasser et que 50% des individus veulent aller à l'est et 50% veulent aller à l'ouest, c'est un problème parce que le groupe se divise et le groupe est plus efficace en restant ensemble. Dans ce cas-là, la plupart des individus auront tendance à graviter vers la majorité, même si fondamentalement, il n'y a pas de raison d'aller dans une direction ou l'autre. Et donc, ces deux éléments qui sont, numéro 1, l'utilisation de la sagesse collective, même quand vous n'avez pas les informations vous-même, et numéro 2, la coordination de groupe, ont permis à l'être humain de survivre. D'où le fait que la preuve sociale est un mécanisme aussi profond qui était valide en 84 quand Cialdini a écrit son bouquin, est valide encore aujourd'hui et sera valide dans le futur. La preuve sociale fonctionne à deux conditions. La première condition, c'est que nous avons un doute. La bonne décision n'est pas claire. La deuxième condition qui permet à la preuve sociale de fonctionner, c'est que le reste du monde semble clairement préférer une option plutôt que les autres. C'est-à-dire que si nous avons une préférence claire, nous n'allons pas forcément nous faire influencer fortement par les autres. Il faut donc que nous hésitions entre plusieurs options. Et deuxièmement, si le reste du monde ne semble pas exprimer de préférence, évidemment la preuve sociale ne fonctionne pas. Une expérience intéressante qui illustre la preuve sociale a été menée dans les années 60. Voilà l'expérience. Un groupe de personnes rentre dans un ascenseur. Mettons que 4 personnes rentrent dans un ascenseur. Parmi ces personnes, 3 sont des complices des chercheurs. Une personne est le sujet sur lequel on va faire l'expérience. Ce que les individus dans l'ascenseur vont faire, c'est que les 3 personnes qui ont été mises dans l'ascenseur par les chercheurs vont tous choisir de se tourner vers la même direction. Par exemple, dans un ascenseur, on va normalement faire face à la porte. On entre, on se retourne et on fait face à la porte. Supposons que vous soyez dans l'ascenseur et que les 3 personnes qui sont avec vous décident de se retourner et tourner le dos à la porte, c'est-à-dire faire face au mur qui est opposé à la porte de l'ascenseur. Ce que cette expérience a révélé, c'est que dans la très grande majorité des cas, le sujet qui n'avait pas été mis par les chercheurs, c'est-à-dire le 4e individu, va choisir de se tourner dans la même direction que les autres. C'est-à-dire il va tourner le dos à la porte, il va faire quelque chose qui est relativement inhabituel dans cette situation. La raison, c'est que si 3 individus séparés décident de se tourner dans une direction, dans l'ascenseur, vous allez supposer qu'il y a une bonne raison, même si cette raison n'est pas évidente. Et bien sûr, dans ce cas-là, vous auriez l'air un peu idiot de poser la question, et donc du coup, vous avez tendance à suivre le mouvement de foule sans poser de questions. Ici, nos deux conditions sont remplies. La première est que la personne dans l'ascenseur a certes une préférence de se tourner vers la porte, mais cette préférence n'est pas très forte. Et deuxièmement, l'ensemble des autres personnes dans l'ascenseur semble clairement préférer une direction plutôt qu'une autre. Voilà une autre expérience dans le même genre. Des chercheurs placent à un coin de rue dans Manhattan une personne qui regarde vers le haut. Ils observent est-ce que les passants qui passent près de cette personne regardent vers le haut. Si ils placent une personne au coin qui regarde en haut, à peu près 20% des gens vont regarder dans la même direction. Ils vont se demander, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Mais si, au lieu de placer une personne à ce coin de rue, vous placez 5 personnes qui regardent vers le haut, 80% des passants vont eux aussi s'arrêter et regarder. Pourquoi? Parce que si 5 personnes regardent vers le haut, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Et ce, même si, fondamentalement, il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que ces personnes ont été placées là par des chercheurs et il n'y avait pas de raison particulière, il n'y avait rien à voir de particulier. Mais si ces 5 personnes regardent vers le haut, environ 80% des gens vont supposer que ces personnes regardent là pour une bonne raison. Et fondamentalement, c'est une supposition tout à fait raisonnable et tout à fait logique. En dehors de ce cadre, que ce soit dans l'ascenseur ou sur le coin de rue, où des chercheurs ont volontairement manipulé un mouvement de foule, dans la plupart des cas, s'il y a un mouvement de foule, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, voyons comment vous pouvez mettre en place la preuve sociale pour améliorer vos conversions et pour améliorer vos ventes. Sur le web, on a un problème fondamental avec la preuve sociale, c'est que vos utilisateurs ne voient pas ce que font vos autres utilisateurs. C'est contraire, par exemple, à un restaurant. Ou si vous avez un restaurant qui est populaire, vos utilisateurs, vos clients vont voir naturellement que votre restaurant est populaire parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce restaurant. Si vous avez un magasin qui est à la mode, c'est pareil. On va se rendre à ce magasin et on va pouvoir voir que d'autres utilisateurs sont dans ce magasin. Mais si vous avez un site internet qui est populaire, ou si vous avez un produit en particulier qui est très populaire, ou si vous avez un podcast qui est écouté par des millions de personnes, il n'est pas évident pour vos utilisateurs que ce produit est populaire. C'est une des raisons, par exemple, pour laquelle le compteur de vues sur YouTube est aussi important. Ça permet aux gens qui regardent une vidéo de se dire « Ah, beaucoup d'autres personnes regardent cette vidéo, donc cette vidéo doit être de bonne qualité. » Mais dans la plupart des cas, vous n'aurez pas ce compteur de vues sur votre site. C'est quelque chose qui était très fait dans le web au départ. Si vous avez utilisé le web, même au début des années 2000, il y avait beaucoup de sites qui mettaient un compteur de vues sur leur page. C'était une façon d'essayer d'approximer cette preuve sociale. Aujourd'hui, les choses sont devenues plus sophistiquées, mais il y a toujours cette idée que vous devez être proactif. Plus vous pouvez mettre sur votre site d'efforts pour mettre en avant cette preuve sociale, plus votre site sera efficace et plus vous allez pouvoir améliorer vos conversions. Il y a 6 méthodes fondamentales pour mettre en avant votre preuve sociale sur votre site. La première méthode, c'est l'étude de cas. L'étude de cas, c'est prendre un de vos clients qui a utilisé votre produit et qui a reçu des résultats positifs et désirables. L'étude de cas a 2 grands avantages. Le premier, c'est qu'elle peut être présentée de façon narrative. Et comme vous le savez sûrement, les gens sont naturellement attirés par les histoires. Nous avons envie qu'on nous raconte une histoire. Nous avons envie d'avoir un arc narratif. Nous avons envie d'avoir un personnage qui commence dans une situation difficile et similaire à la nôtre et qui va, à l'aide de votre produit, surmonter des obstacles et atteindre la situation qu'on désire. Et pour ça, l'étude de cas est extrêmement efficace. La deuxième méthode de preuve sociale qui est liée à l'étude de cas, c'est le témoignage. Le gros avantage du témoignage, c'est qu'il peut être placé un peu partout. Le témoignage peut être placé sur votre page de vente, sur votre page d'accueil, le témoignage peut être placé à côté de vos formulaires, etc. Le témoignage, c'est une petite fraction de preuve sociale qui peut être insérée dans différents contextes. Le témoignage sera le plus efficace si, numéro 1, votre prospect peut s'identifier au problème expliqué dans le témoignage. Donc si par exemple, votre problème, c'est que vous avez du mal à faire grandir votre liste email et que j'ai un témoignage sur mon site disant « Stanislas a permis d'augmenter mon taux d'opt-in sur mon site et mon taux de capture d'adresse email », vous allez pouvoir vous identifier à ce problème, à cette résolution, et le témoignage sera efficace. Le témoignage sera aussi plus efficace si vous pouvez le rendre réel et concret. C'est-à-dire si vous pouvez ajouter une photo de la personne dont vous avez le témoignage, son nom, son entreprise, etc. La troisième méthode pour renforcer la preuve sociale sur votre site, c'est d'utiliser des évaluations. C'est quelque chose qui est très utilisé par beaucoup de gros sites, que ce soit Amazon, iTunes ou même Uber, etc. L'idée ici est que si 10 personnes, 15 personnes, 50 personnes, 1000 personnes me disent que ce produit est de qualité, j'aurais tendance à y croire. C'est quelque chose que tout le monde comprend. C'est quelque chose que vous pourriez sans doute utiliser de façon plus proactive sur votre site. La quatrième méthode de preuve sociale, c'est tout ce qui est le social. Avoir beaucoup de likes sur votre page Facebook envoie un signal que votre page est populaire et que donc, sans doute, votre contenu est de qualité. Avoir beaucoup de commentaires sur votre blog montre que ce blog a beaucoup de lecteurs et donc que ce blog est probablement de qualité. Avoir beaucoup de partages sur votre page montre que les gens lisent votre site et qu'ils l'apprécient suffisamment pour le partager et donc reflète que votre contenu est probablement de bonne qualité. Encore une fois, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous comprennent, mais c'est quelque chose que vous pouvez sans doute utiliser de façon plus agressive. La cinquième méthode de preuve sociale, c'est faire référence à des logos, à des institutions, etc. C'est ce que vous voyez sur la page d'accueil de beaucoup d'entreprises qui font du logiciel. Souvent, les entreprises vont mettre en avant le logo de leurs clients. L'idée étant que ça leur donne de la crédibilité. Une autre façon dont les logos vont être utilisés, c'est avec la presse. Donc, Le Monde a parlé de moi, TechCrunch a parlé de moi, tel site a parlé de moi. Cet aspect de la preuve sociale fonctionne. Ce n'est pas forcément le plus efficace, mais si vous l'avez sous la main, c'est un des éléments utiles à utiliser pour montrer votre crédibilité et pour suggérer que si ces entreprises prestigieuses et si ces médias prestigieux vous ont fait confiance et ont parlé de vous et vous ont trouvé intéressant, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Ça peut vous donner de la crédibilité et ça peut piquer l'intérêt des gens de découvrir pourquoi est-ce que Google est client de ce software. La sixième et dernière méthode pour mettre en avant la preuve sociale sur votre site, c'est les chiffres bruts. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure en disant combien de vues est-ce que cette vidéo a sur YouTube ? Combien d'évaluations est-ce que ce podcast a ? Combien de personnes utilisent ce produit ? Mettre en avant des chiffres bruts, dire « nous avons plus de 20 000 clients », dire « cette vidéo a été vue par plus d'un million de personnes », suggère la qualité. Et vous verrez que c'est intéressant parce que, contrairement aux évaluations qui suggèrent la qualité de façon très directe, les gens m'ont dit que mon podcast valait 4,7 étoiles, par exemple. Ici, la qualité est suggérée par la masse. On suppose que si beaucoup de gens font quelque chose, c'est que cette chose est positive, même si 1 million de personnes peuvent regarder une mauvaise vidéo. Donc, ces 6 méthodes que je vais résumer maintenant, qui sont la première, l'étude de cas. Deuxième, le témoignage. Troisième, les évaluations. Quatrième, les réseaux sociaux. Cinquième, les logos et les institutions autoritatives. Et sixième, les chiffres bruts. Ces 6 éléments permettent de renforcer sur votre site la preuve sociale. Encore une fois, la plupart d'entre vous connaissaient déjà, avant d'entrer dans cet épisode, l'importance de la preuve sociale. En revanche, ce que je vois sur beaucoup de sites, c'est que la preuve sociale n'est pas assez proactivement mise en avant. Comprenez que la preuve sociale, ce n'est pas le bouche-à-oreille et que si vous voulez maximiser vos ventes et vos conversions, vous devez réfléchir à comment est-ce que cette pièce du puzzle peut être utilisée au mieux. Par exemple, supposons que je veuille convaincre plus de gens d'écouter ce podcast. Comment est-ce que je peux utiliser la preuve sociale pour y arriver ? La première chose, c'est que je peux vous dire combien de personnes m'écoutent. À supposer que ce chiffre soit suffisamment grand pour vous impressionner, ça sera déjà une marque de qualité. Je peux vous dire que j'ai un score de 5 étoiles sur iTunes. Je peux vous dire que je suis systématiquement dans le top 5 des podcasts de marketing français. Je peux vous parler de tous les sites et de tous les influenceurs et de toutes les autorités qui ont mentionné ce podcast. Ou finalement, je pourrais vous montrer des témoignages précis d'individus qui ont été personnellement aidés par ce podcast. Mon conseil pour en arriver là, c'est d'être proactif et en particulier de demander à vos clients de vous laisser des évaluations, de vous donner des témoignages, etc. La plupart des gens qui apprécient ce que vous faites ont envie de vous aider, mais si vous n'êtes pas proactif, ils passeront sans doute à côté. Donc en conclusion, la preuve sociale est un des mécanismes psychologiques les plus anciens de l'être humain et aussi les plus puissants. Ça marchait avec nos ancêtres, ça marche toujours au XXIe siècle. C'est une des façons majeures qui nous permet de prendre des décisions dans un environnement qui est incertain. Et mon instinct, c'est que vous n'utilisez probablement pas assez la preuve sociale dans votre marketing actuellement. Et la raison pour laquelle je m'en doute, c'est parce que presque personne n'utilise la preuve sociale à son échelle complète. Et je sais que, par exemple, c'est mon cas. Je pourrais utiliser la preuve sociale de façon plus proactive sur mon site. La solution, numéro 1, soyez plus proactif. Numéro 2, utilisez plus de types de preuves sociales différentes. Souvenez-vous des 6 types dont on a parlé tout à l'heure. Et numéro 3, utilisez un élément de preuve sociale pour chaque objectif et à chaque point de conversion sur votre site. C'est-à-dire, ne réservez pas la preuve sociale juste pour votre page de vente. Mettez une preuve sociale sur votre page d'accueil. Mettez une preuve sociale sur votre formulaire d'inscription. Mettez une preuve sociale sur vos relances par email. Et finalement, mettez évidemment une preuve sociale sur la page d'accueil. Il y a même des gens qui vont aller jusqu'à mettre une preuve sociale sur le formulaire d'achat. Au moment où vous rentrez votre carte bleue, il va y avoir un testimonial d'un client satisfait. Il y a même des gens qui peuvent utiliser la preuve sociale après la vente. C'est-à-dire, vous avez acheté le produit, on va vous envoyer des nouveaux témoignages de clients pour vous montrer à quel point vous avez pris la bonne décision. Alors, on en arrive à la conclusion de ce premier épisode sur l'influence, sachant évidemment que ce sera suivi par 5 autres épisodes sur les autres éléments de l'influence. Pour ne pas manquer ces prochains épisodes, rendez-vous sur marketingmania.fr/podcast et vous aurez 2 possibilités pour vos abonnés. Numéro 1, et ce que je vous conseille, vous vous abonnez par email pour ne rien manquer. Et en plus, vous recevrez des bonus sur l'optimisation des conversions et la gestion de campagnes Facebook quand vous vous inscrivez par email sur le site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Ou alors, vous pouvez vous rendre à la même adresse marketingmania.fr/podcast et vous inscrire directement sur votre iPhone ou sur votre téléphone Android, soit par iTunes, soit par Stitcher. Il y aura toutes les instructions sur la page marketingmania.fr/podcast pour vous inscrire, vous abonner et recevoir les prochains épisodes de façon purement automatique. Pour terminer, je vais suivre mon propre conseil et je vais être proactif pour vous demander de me donner plus de preuves sociales. J'ai déjà beaucoup de très bonnes évaluations sur la page iTunes de Marketing Mania, mais je pourrais toujours en avoir plus. Les évaluations sont un des éléments majeurs qui vont permettre à ce podcast de toucher plus de personnes, qui vont me permettre d'investir plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent dans la création de nouveaux épisodes, qui va me motiver à continuer à vous donner le meilleur contenu possible. Alors si vous voulez me soutenir, rendez-vous sur marketingmania.fr/podcast et il y aura toutes les instructions pour me laisser une évaluation sur iTunes. Ça ne prend que quelques minutes et comme vous l'avez vu dans cet épisode, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour le podcast et je vous en serai extrêmement, extrêmement reconnaissant. Alors pour terminer cet épisode, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'ici. Abonnez-vous par email sur iTunes, sur Stitcher, laissez-moi une évaluation et écoutez les 5 prochains épisodes. Et je vous dis à la semaine prochaine.